Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, la semaine dernière, à la fin de semaine dernière, c'est-à-dire j'étais à Salt Lake City en Utah pour conduire le Cadillac Lyriq 2023.
Ça devait être le fun, ça rend là-bas en avion, hein?
Ah, c'était un enfer se rendre et un enfer pour le retour également.
On salue les très efficaces... travailleurs de l'aéroport de Dorval.
Ben, franchement, j'imagine qu'ils font du mieux qu'ils le peuvent, et c'est surtout
En deux breaks, là.
Mais il faut...
Je passais par l'aéroport quelques fois, là, puis permets-moi de faire du Dorval bashing un petit peu.
Vas-y.
Tu sais, quand t'arrives à l'aéroport, puis que t'as l'impression que t'es sur le changement de chiffre, mais qu'il y a personne qui gère en haut, là.
Oui. Non, c'est très complexe.
Tu atterris, puis on te dit... malheureusement, l'équipe qui devait s'occuper de nous est attribuée à un autre avion qui arrive en même temps. Oui. D'où l'idée d'avoir une deuxième équipe.
Mais en même temps, l'aéroport d'Orval, c'est là où on a coupé en premier des effectifs il y a 2 ans. Tous ces gens-là se sont réorientés professionnellement. Et c'est un peu comme dans le domaine de la restauration. Il manque énormément de main-d'œuvre parce que tous ces gens-là ont été, en bon français, slackés et ne reviennent pas. Mais là, les voyageurs, eux, sont bel et bien de retour. Autant des voyageurs de plaisance que des voyageurs professionnels. Alors, il va falloir trouver...
Alors, le secret, c'est vol direct et carry-on.
Et surtout pas de Toronto Pearson, là.
Ouais, c'est ça.
surtout n'enregistrez pas de bagages. Bref, j'étais à Salt Lake City pour conduire le premier véhicule électrique de Cadillac. Certains vont parler de l'ELR comme étant un véhicule électrique, mais il y avait quand même un moteur à essence. Alors, là, c'est une première incursion beaucoup plus sérieuse, si tu veux mon avis. C'est sur la plateforme Ultium de GM. On a une batterie là, d'une centaine de kilowattheures. On a une autonomie de 502 km. Là, franchement, je pense que c'est la donnée à retenir avec le prix aussi, le prix unique pour le moment de 69 000 $ et des poussières. Franchement...
Pas éligible au crédit,
bien entendu, mais d'avoir une si bonne autonomie pour ce prix-là, franchement, c'est intéressant.
Véhicule un sacré look,
ça ressemble à rien d'autre, même si on reprend l'image de Cadillac dans la mesure où on a des phares verticaux à l'avant. J'ai aimé l'idée aussi étant donné qu'il n'y a pas de grille de calandre, vu que c'est un véhicule électrique, on a mis des faisceaux lumineux à l'avant. On a essayé de décorer, de donner un style, même si on n'a pas de grille traditionnelle. Sinon, pour le comportement, on a tout misé sur le confort. Il n'y a rien de sportif. En tout cas, pas dans cette version à deux roues motrices.
Propulsée.
D'avoir une version propulsée, c'est pas en soi un problème pour moi. Mais le fait qu'on ait 340 chevaux, ça, c'en est un. Fie-toi sur moi.
Ça avance pas.
C'est parce que le véhicule pèse 5500 livres. Et pour te donner une idée, un Cadillac Escalade pèse 5500 livres. Donc, ça ne fonctionne pas. On aura éventuellement une version à deux moteurs qui sera 4 roues motrices et qui aura, elle, 500 chevaux. À ce moment-là, ce sera assurément...
Mais 340 chevaux, ça ne doit pas quand même être vilain, là.
Oui, mais ça pèse le poids d'un Cadillac Escalade, là.
OK, mais un Cadillac Escalade avec un moteur diesel fait 277 chevaux. Là.
Oui, mais on a 460 livres-pieds de couple ou je ne sais pas quoi, là.
Mais moteur électrique aussi. Parce que tu t'attends probablement à beaucoup plus.
Oui, fait qu'on ne peut qu'être déçu parce que, tu profites de l'instantanéité, ça c'est correct, mais t'as pas d'accélération fulgurante. T'es pas catapulté là, quand t'es dans ce véhicule-là. C'est très pesant, puis ça se ressent aussi dans les virages, là, parce que tu sens que tu transportes le poids d'un autobus avec toi. Je te parlais de son prix unique pour le moment. Il y a une option pour des jantes de 22 pouces que tout le monde va prendre, j'imagine. Puis c'est la seule option offerte. Il n'y a même pas de choix de couleur.
Oh.
Le véhicule est gris, puis c'est tout. Même pas de gris pâle ou de gris foncé. C'est gris,
pas de
puis
noir,
c'est
de
tout.
Blanc.
Il y aura éventuellement le noir offert. Mais pour le moment, c'est gris, puis c'est tout. Je trouve ça un petit peu spécial. Là, on a vraiment limité autant que possible l'offre, mais là, c'est très limité. Là, de ne pas avoir de choix de couleur, là, c'est très limité. Okay. Alors, bon, la production débutera un peu plus tard cet été, puis le carnet de commandes est déjà plein. On est rendu à 2024. Ça n'a aucun bon sens. Non, c'est vrai, on est rendu à 2024. Donc, si vous êtes en train de découvrir en ce moment le Lyriq, ben j'ai le malheur de vous annoncer qu'il est déjà trop tard.
Ah ouais, c'est ça. Est-ce que tu dirais que ce véhicule-là est une première belle approche pour d'autres véhicules électriques qu'on va retrouver chez GM plus tard?
Ah ben, en fait, en ne conduisant qu'une version à deux moteurs, j'ai l'impression de ne pas d'avoir
deux roues motrices.
Deux roues motrices à un seul moteur, j'ai l'impression de ne pas avoir eu entre les mains le meilleur de ce que GM est capable de faire. Fait que pour moi, c'est juste une belle promesse de ce qui s'en vient plus tard, okay. Oui, mais en soi, la version à un seul moteur propulsé, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Surtout qu'on nous a dit que la version à double moteur, ça allait être en bon français un no-brainer. Donc, est-ce que ça va coûter 2, 3, 4 000 $ de plus? C'est ce qu'on nous a laissé entendre entre
pas
les
lignes. Pas plus que ça.
Okay. Pas plus que ça. Fait que rendu là, c'est sûr que ça va valoir la peine. Mais oui, ça donne une bonne première idée, okay, de justement cette plateforme-là, Ultium, et de la technologie de GM.
Tu leur as pas demandé s'il y avait déjà des rappels?
Non, parenthèse, je devais conduire dans deux semaines. Je devais assister, c'est-à-dire au lancement du Subaru Solterra,
oui,
un premier véhicule électrique chez Subaru. Oui. J'ai eu, il y a quelques jours, un courriel me disant que le lancement allait être annulé, / reporté, parce qu'il y avait un rappel de Transport Canada sur, oui, ce véhicule-là. Franchement, ces véhicules-là, j'ai l'impression, sont développés un petit peu rapidement. Et il y a une part du travail.
Il y a comme une urgence, là, ouais, oui.
Oui, il y a une urgence, mais il faudrait peut-être serrer les boulons suffisamment. Ouais. Bref, on pourra parler une autre fois du, okay, Subaru Solterra. De ton côté, tu as conduit la Porsche 911 GT3 Touring 2022.
Je vous parlerai un peu plus tard du kiosque Porsche lorsque j'ai visité le Festival of Speed de Goodwood.
Oui.
Mais là-bas, j'ai pu voir la 911 Sport Classic. La Sport Classic, c'est pour moi l'ultime 911. C'est la plus belle, c'est la plus désirable. Équipée de la mécanique de la 911 Turbo S avec quelques chevaux en moins.
Mais ça coûte une fortune, cette
histoire-là. Mais avec boîte manuelle et roue motrice arrière seulement.
Donc, de là l'appellation classique.
Oui, mais aussi en raison du look. Parce, okay, que, on a ce qu'on appelle le ducktail en arrière, le petit aileron, aileron inspiré des modèles des années 70. Les ailes avant sont remodelées, les pare-chocs, les jantes, tout l'habillage intérieur est magnifique. Le prix d'entrée au Canada est à 303 000 $
mm-hmm,
et on en fabriquera que 1250 pour le monde
vendu,
entier.
J'imagine.
C'est ça. Fait que c'est l'ultime 911 qui est très désirable pour moi. Et la 911 GT3, je savais que c'était une voiture de course immatriculable.
Oui.
Mais
à quel point elle est civilisée et on peut la conduire au Québec? Là.
Alors voilà. Alors la version que j'ai conduite, d'abord, c'est une Touring. La Touring, la grande beauté de ça, c'est que c'est pas un arbre de Noël.
Okay.
Les 911 GT3 qu'on croise sur la route, gros
avec
ailerons.
Des calques, des ailerons, ça finit
t'sais,
plus.
Ça passe pas inaperçu. C'est souvent des gens qui vont vouloir se procurer une exotique pour les mêmes raisons qu'une Lamborghini. Et sans nécessairement vouloir la conduite d'une GT3. Tu sais, la GT3, autrement dit, le nom GT3 est plus grand au niveau social que ce que la clientèle va nécessairement vouloir. Moi, j'ai cette impression-là. Et évidemment qu'il y a des gens qui achètent des GT3 pour aller faire du circuit. Parfait, parce que c'est fait pour ça.
Mais ça demeure pas nécessairement une majorité des acheteurs.
C'est ça. Mais ce que j'ai aimé de la 911 GT3 Touring, c'est que son habillage est on ne peut plus classique. Il n'y a pas de gros ailerons en arrière, c'est des couleurs plus sobres, des jantes argentées, pas noires, pas de décalque là-dessus, ceinture de chrome autour des vitres. Le look à l'intérieur est très classique, c'est magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré. Par contre, ça demeure une GT3. Là. Mais
c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le rendement mécanique, c'est est-ce le même. Que le comportement...
C'est le même.
Ah oui.
Et d'ailleurs, on a un aileron arrière qui se déploie, passe une certaine vitesse. Et à ce moment-là, tu obtiens le même
comme
appui au sol. Oui, comme ma Corrado, pareil. Mais là, tu obtiens le même appui au sol qu'avec l'aileron de la GT3 régulière.
Donc, tu n'es pas en reste.
Tu n'es aucunement pénalisé au niveau de la conduite. Se glisser à bord de la 911 GT3 et en sortir avec les sièges bac sport que j'avais en option dans cette voiture-là, c'est tout un exercice. Et une fois que tu es installé à bord, la position de conduite, elle est parfaite.
Okay.
Ça peut pas être mieux que ça. C'est pas plus compliqué que ça. La version que j'avais, boîte manuelle à 6 rapports, et je dis 6 rapports, c'est important parce que les autres 911 ont 7 vitesses, mm-hmm. mais pour la GT3, on conserve une 6 vitesses. Ça tourne 3000 tours minute à 120 km/h, donc c'est un moteur qui révolutionne, et la zone rouge est à 9000 tours minute.
Wow! Ça doit bien chanter.
Ça chante pas mal. Les accélérations sont foudroyantes. C'est un 4 litres, 6 cylindres 4 litres à plat de 502 chevaux. Ça pousse, ça n'a aucun bon sens. C'est pas aussi rapide qu'une 911 Turbo ou une Turbo S, bien sûr. T'as pas les quatre roues motrices non plus, mais l'équilibre de conduite de cette auto-là est fascinant. Garde les deux mains sur le volant, par contre, parce que sur les routes du Québec, les vallons vont que ça tasse de gauche à droite assez souvent. Là, il y a du 315 en arrière, fait que tu le sens pas mal. Mais les accélérations, la conduite, tout est extraordinaire. Puis c'est simpliste, c'est très facile à conduire. T'as pas de confort. Oh,
Le mot touring écoute, n'est pas là pour le confort.
Je suis sorti de la 911 GT3 pour prendre ensuite place à bord de ma Camaro SS1LE.
Qui n'est pas la plus confortable non plus.
Et j'avais littéralement l'impression d'être à bord d'un Escalade.
Là. OK.
Tu sais, les sièges de la 911, c'est du béton. La suspension, c'est du béton. Jamais... J'ai activé le mode track une fois pour voir ce que ça faisait, puis je suis revenu au mode régulier.
Okay.
Parce que,
c'est trop.
Tu sais, le mode track, c'est vraiment quand tu roules sur un tapis de billard, sur un circuit extraordinaire. Sur les routes du Québec, là, écoute, ils ont mis un porte-gobelet dans une 911 GT3, je sais même pas pourquoi, c'est impossible que le liquide puisse rester dans la tasse. Tu sais, ça va revoler partout, là. C'est vraiment une voiture de course pour la rue. Un peu plus civilisé que ce à quoi je m'attendais, mais aucunement confortable. C'est une Porsche de puriste, là. Et la voiture que j'avais, avec les options, avec les frais, tout ça, montait à peu près 240 000 $ et ça se revend au lendemain 100 000 de plus.
Donc, en plus d'être un rêve qu'on réalise, c'est un investissement fort intéressant.
Carrément.